Ça jase à Lyon avec Alexis André.
Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon. Je reçois ce matin le journaliste lyonnais Stéphane Damien Tissot. Bonjour Stéphane Damien Tissot.
Bonjour, merci de m'inviter.
Vous êtes le rédacteur en chef de Sang Froid. C'est un MOOC trimestriel qui vient de sortir, qui traite de justice, d'enquête, de polar. Alors le MOOC, c'est cette revue très classe qui coûte le prix d'un livre. On connaît notamment 21 qui en est l'exemple le plus connu. C'était le format idéal pour ce type de contenu ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que la justice et l'investigation nécessitent un temps long. Oui. Souvent pour avoir de la place, parce que c'est souvent des sujets un petit peu compliqués où il faut des détails pour pouvoir bien aller au fond des choses. Mmh. Et là, c'est vrai que nous, on a cette opportunité-là avec ce trimestriel, ces articles qui font environ une quinzaine de pages à chaque fois. C'est vrai qu'on avait cette opportunité-là et pour nous, c'est vraiment un plus par rapport à cette thématique qui le nécessite.
Alors, on retrouve dans Sang Froid des portraits de magistrats, un article sur les conflits d'intérêts chez les avocats, un dossier sur les avocats fiscalistes. Est-ce que vous comptez clairement sur le monde judiciaire pour former un lectorat de base?
Alors, notre lectorat de base est vraiment à qui cette revue s'adresse, c'est avant tout le grand public.
Oui.
On est une revue grand public, on écrit pour le grand public. Par exemple, quand il y a des notions un petit peu complexes, on les explicite. On a notamment des rubriques qui s'appellent « Aller plus loin » qui permettent justement d'avoir des clés de compréhension nécessaires quand les articles sont un petit peu complexes. Je pense par exemple à l'article sur les détenus longue peine. Mm-hmm. Où on revient un petit peu à ce qu'est un détenu longue peine, quels sont les établissements à peine en France, ce genre de choses. Donc notre lectorat premier est le grand public. Ceux qui aiment lire, ceux qui aiment un petit peu tout ce qui est investigation, les domaines de la justice également, et forcément aussi donc les polars 2, ceux qui aiment le polar. Et après, par ricochet, on va intéresser les avocats, les magistrats, donc forcément, ça sera l'un de nos publics cibles et de nos publics phares de Sang Froid, mais on écrit avant tout pour le grand public.
Vous mélangez dans Sang Froid l'investigation journalistique réelle, donc, et aussi la fiction avec les polars. Il n'y a pas un risque de perdre le lecteur? La portée des contenus est parfaitement identifiable?
Oui, la portée des contenus est parfaitement identifiable. On a vraiment la deuxième partie, celle du polar, qui est identifiée par une double page prévue à cet effet. On a même un mini sommaire pour rentrer dans cette partie polar. Donc, on estime, en tout cas, ne pas noyer le lecteur et que le lecteur pourra facilement repérer ce contenu. C'était vraiment l'idée de faire deux parties distinctes pour que le lecteur puisse s'y retrouver et sache que là, il rentre dans la partie polar et plus fictionnelle, finalement.
Sur les enquêtes, il y en a une qui a une répercussion qui est intéressante en ce moment, surtout avec les attentats qui frappent l'Europe. C'est le travail des services français sous Giscard d'Estaing pour déstabiliser l'Algérie. 40 ans plus tard, il y a des langues qui se sont déliées.
Tout à fait, il y a des langues qui se sont déliées, surtout en 2006, avant que l'un des membres de ce service secret français décède. Oui. Il a accepté de nous rencontrer pour confier cette histoire. Il avait ordre de ne jamais en parler. Mais forcément, quand on se rapproche de la mort, on a parfois envie un petit peu de soulager sa conscience. Et donc, c'est ce qu'il a fait avec notre journaliste Philippe Lobjoie, qu'il a rencontré. Il est revenu sur ces tentatives de déstabilisation dont il devait s'occuper, entre guillemets, en Algérie, notamment à Alger. Mmh. Et on l'a rencontré, voilà, 6 mois avant qu'il décède. Et donc, il nous explique comment il devait poser des bombes en Algérie pour déstabiliser ce tout jeune État. Et donc, ça, c'est notamment l'une des enquêtes fortes de Sang Froid, l'une des révélations de ce premier numéro.
Donc, interview en 2006, 10 ans plus tard, l'article sort, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail de longue haleine d'investigation avec des déplacements sur place, peut-être ?
Tout à fait, il y a un travail de longue haleine de recouper, finalement, l'information, parce que voilà, c'est des sujets forcément sensibles. On marche, entre guillemets, un petit peu sur des œufs et il faut vérifier l'information, il faut recouper. Donc voilà, ça nécessitait un temps long et puis on avait déjà cette interview depuis quelques temps et on attendait finalement que Sang Froid démarre pour pouvoir la publier. Je travaille en partenariat avec la maison d'édition Nouveau Monde, qui est notre maison d'édition qui édite la revue Sang Froid, et je me suis associé avec Yannick Dehaye, le PDG de Nouveau Monde Édition, et donc c'était notamment l'une de ses rencontres à lui là pour le coup pour ce premier numéro, cette enquête, et donc il a accepté de garder ça un petit peu sous le coude le temps qu'on sorte Sang Froid. Donc oui, 10 ans d'attente pour ce papier.
Il y a toujours un petit côté voyeur chez certains amateurs de faits divers ou de compte rendu d'audience, certains magazines pour eux c'est une ligne éditoriale qui est parfaitement assumée. Chez vous, c'est pas du tout le credo.
Non, c'est totalement le contraire. Voilà, l'idée, c'est vraiment de parler du fait divers que s'il a une dimension sociale intéressante ou importante, ou alors si les personnages en question, les personnes en question plutôt, ont vraiment un parcours incroyable. Oui. Là, on va parler plutôt de faits divers. Je pense notamment, par exemple, à un sujet qu'on prépare pour le second numéro sur un serial killer brésilien qui a tué plus d'une centaine de personnes. Et ce personnage-là est très intéressant parce que finalement, il a une histoire personnelle, une enfance surtout très difficile, qui permet un petit peu finalement de comprendre pourquoi ce passage à l'acte, pourquoi ce déchaînement de violence, et finalement c'est cette petite part un peu de schizophrénie qui l'habite. Et donc voilà, là c'est typiquement le genre de sujet sur lequel on va pouvoir se pencher, mais c'est pas notre thématique majeure dans Sang-Froid. On est plus dans l'investigation, dans les histoires judiciaires, essayer de faire comprendre finalement le fonctionnement de la justice, essayer d'avoir des enquêtes qui vont au fond des choses. Voilà, ça c'est notre credo, plus que le fait divers classique.
La revue Justice Polar, c'est quelque chose qui a déjà été expérimenté par le défunt Alibi, qui n'a pas réussi à trouver un public suffisant pour garder vie sur la durée. Quelles sont vos armes pour ne pas reproduire ces erreurs?
Alors déjà, Alibi, qui était une très belle parution, hein, ils ont vécu à peu près 3 ans, quasiment 3 ans, est parti en fait tout seul, de manière totalement indépendante, sans maison d'édition derrière, et en ayant finalement Flammarion qui les a rejoints très tardivement. Nous, on a essayé de réfléchir ce projet de manière différente.
Ouais, c'est dès pour la
ça
base.
Que, dès la
projets.
Base, tout à fait. C'est pour ça que moi, je me suis associé avec une maison d'édition, donc comme je le disais tout à l'heure, Nouveau Monde Édition. Et on a un diffuseur qui s'appelle le CDE, qui est le diffuseur des éditions Gallimard, donc une grosse structure, des représentants qui sont efficaces, qui sont très présents sur le terrain. Donc c'est vrai que c'est un autre modèle finalement, parce que je pense et je suis persuadé qu'il y a un public pour ce genre de parution. Alibi se vendait très bien. Il y a aussi une autre revue qui s'appelait Crime et Châtiment, qui a vu le jour il y a quelques années, qui se vendait aussi, mais pour des raisons économiques encore, ils ont dû cesser de paraître. Donc c'est vrai que voilà, on est persuadé qu'il y a un public, il faut aller le chercher, et on a essayé d'avoir les moyens pour le faire.
Puisqu'on parle d'économie, vous l'avez dit, le numéro 2 est déjà en cours de préparation, il devrait sortir donc vers l'été ou vers la rentrée de septembre.
Alors, vers l'été, oui. Enfin, tout début de l'été, on va dire que mi-juin, normalement, on est en librairie.
Quels sont vos objectifs pour l'année 2016 en termes de lectorat?
En termes de lectorat, on a un objectif de 7000 exemplaires vendus par numéro. Après, forcément, on est un petit peu plus ambitieux parce qu'on a pour l'instant d'excellents retours sur ce premier numéro, que ce soit les libraires qui sont très satisfaits, que ce soit nos lecteurs qui nous font des retours très sympathiques sur les réseaux sociaux, que ce soit un petit peu même les médias. On a aussi pas mal d'échos dans les médias, donc on a forcément une ambition un petit peu plus élevée. Donc si on pouvait atteindre la barre des 10 000 exemplaires vendus par revue, on serait très content. On attend de voir un peu. Pour l'instant, les premiers chiffres qu'on a sont plutôt encourageants, donc on croise les doigts.
Donc dans chaque numéro, des nouvelles enquêtes exclusives, mais aussi une nouvelle exclusive, un portrait d'auteur de polar. Ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, à Lyon, c'est le coup d'envoi de Quai du Polar. Est-ce qu'il y a des passerelles à trouver entre Sang-Froid et Quai du Polar?
Oui, justement, nous sommes médias associés du festival Quai du Polar, et donc on pourra nous rencontrer là pendant les 3 jours de l'événement de Quai du Polar sur le stand de la librairie Luciole, qui nous a gentiment accueillis pour cette première édition pour nous de Quai du Polar. Donc on va pouvoir rencontrer notre public, discuter avec eux autour de ce premier numéro, de l'idée qu'on a de cette revue, et pouvoir échanger avec eux pendant ces 3 jours.
Oui, donc ça c'est la première étape, se faire connaître, reconnaître son public également, et potentiellement pour les prochaines éditions, participer à tout ce qui peut être mis en place, l'enquête ou ce genre de choses.
Les tables rondes également, c'est des choses sur lesquelles on travaille déjà pour l'an prochain. Là, c'était un petit peu compliqué parce que forcément, notre premier numéro arrivait un petit peu tardivement. Il faut aussi qu'on se fasse connaître, hein, c'est normal. Donc voilà, ce sera plutôt pour une deuxième édition, pour une prochaine édition, parce que c'est déjà la 13e édition de Quai du Polar, mais pour nous, la deuxième, c'est quelque chose qu'on a en tête en tout cas, et on espère pouvoir le concrétiser dès l'an prochain.
Merci Stéphane Damien-Tissot. Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmag.com.
Merci à vous.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec lyonmag.com.